Oui, et en parlant de maison, on parle d'architecture, de design intérieur. On aborde ici aujourd'hui un sujet dont on parle très rarement, l'impact de l'aménagement intérieur sur le bien-être de la santé et qui plus est des autismes. Nous avons en ligne Mylène Charette, designer intérieur et chargée de cours à l'Université de Montréal. Elle a beaucoup étudié la question du bien-être sur la santé en général et aussi sur les autistes, puisqu'elle a collaboré à une recherche qui était dirigée par la Fondation Louis Vérot et voir comment on pouvait faire un meilleur décorum pour que les autistes de 21 ans et plus y trouvent leur compte et se sentent bien dans leur peau. Bonjour, Madame Charette.
Bonjour, comment ça va?
Très bien. Donc, c'est vrai, hein, le design intérieur, ça a un impact considérable sur la santé en général.
Oui, absolument, surtout pour des personnes qui demandent une habitation, un modèle résidentiel, je dirais, qui est spécialisé, qui demande beaucoup d'interventions, je dirais, pour comprendre un petit peu leurs besoins, également les habiletés qu'ils ont besoin de développer, tout ça. Donc oui, ça a un impact très fort sur leur bien-être dans leur environnement résidentiel.
Concrètement, de quelle manière l'aménagement intérieur a le pouvoir de cicatriser soit des personnes en situation de handicap ou des malades, tout simplement?
Oui, bien nous, en fait, la recherche qu'on a fait pour la Fondation Véro et Louis, on a ciblé différentes stratégies de design justement pour qui démontrent en fait l'impact qu'on a sur le bien-être des personnes autistes. En premier, c'est sûr, c'est sur leur sécurité. Donc nous, c'était la mise en sécurité architecturale. C'est sûr qu'ils ont besoin d'être dans un environnement qui est sécuritaire, autant pour eux-mêmes que pour les autres résidents. Le personnel également qui est dans leur environnement. On a aussi un fort impact sur le confort qu'ils ont dans leur environnement, sur les ambiances sensorielles. Souvent, c'est des gens qui sont hyposensibles ou hypersensibles. Donc, ça peut être exemple la lumière, la réflexion de la lumière, le confort thermique. Ça peut être aussi l'aspect acoustique, les bruits environnants. C'est des éléments qu'il faut vraiment prendre en considération. Parce que ça peut devenir des sources anxiogènes de la part d'une personne autiste. On a également aussi l'aspect plus de la communication spatio-temporelle. Donc ça veut dire faire comprendre à la personne autiste pour bien se repérer, je dirais, dans l'environnement résidentiel, donc entre les zones qui sont privées, les zones publiques. Des fois, ils ont une certaine difficulté à comprendre et analyser l'espace et le temps également. Donc nous, en design d'intérieur, on a plein de possibilités, je dirais, d'intervention qu'on peut faire pour les aider à mieux se repérer, autant dans le temps qu'au niveau spatial. Donc, on a vraiment un impact sur beaucoup d'aspects, je dirais, dans leur environnement, tant sur l'organisation spatiale, donc l'aménagement en tant que tel, mais sur comment les aider dans leur comportement anxiogène, comprendre, dans le fond, leur façon de voir la vie et de vivre à travers un environnement pour s'assurer de créer un environnement qui est vraiment spécialisé pour eux.
Madame Charette, il est clair, vous êtes prof d'université à Montréal en
Oui.
aménagement intérieur, donc l'aménagement, vous l'avez à cœur. Là, on parle d'autistes de 21 ans et plus, mais les gens qui ont le cancer, les gens qui ont d'autres réalités, qu'est-ce que vous dites à vos élèves? Quel message que vous voulez transparaître? Ça peut être les hôpitaux, les écoles. Est-ce qu'il y a une urgence quelque part pour embellir nos aménagements?
Oui, tout à fait. Puis on voit aussi qu'il y a quand même les gens réalisent, il y a une confiance en fait qu'on voit au niveau, exemple de l'Alzheimer aussi, il y a des modèles.
Donc, il semble qu'on a quelques problèmes techniques. Bon, on va sûrement réussir à la repérer.
On parlait donc d'aménagement. On a Madame Charette, elle est revenue parmi nous. Oui,
Oui, bonjour.
on vous avait perdu. Vous êtes dans votre pause café à l'université, là? Votre
oui,
cours commence
exactement.
Bientôt?
Oui, il commence bientôt.
Donc, mais oui, l'impact finalement de l'aménagement intérieur ou même du design, de l'architecture, est-ce qu'on en parle assez souvent et quel est le message premier qu'on devrait savoir à cet égard?
Moi, je crois qu'on n'en parle pas, effectivement pas assez. Je crois que la profession du design d'intérieur est mal comprise par la société. Les gens ne croient pas qu'il y a une proportion, je dirais, de notre travail qui est beaucoup axé sur la psychologie, entre autres, de l'usager, comprendre son bien-être, comprendre ses besoins, etc., pour vraiment...
Bon, ça coupe, la ligne a coupé.
C'est quand même heureux que
y a des gens qui
le design, ça soit pas seulement une affaire de beau, mais une affaire d'inclusion. En tout cas, on avait un bon exemple ici. Je sais pas, toi, t'es-tu au bord de faire ta maison, ton
réaménagement? Mais c'est plus que ça. Moi, ce que je pense, c'est que les hôpitaux, les écoles, l'architecture, l'aménagement paysager... paysager, oui, aussi, intérieur. Et puis, c'est tout ce qu'on fait concrètement a un impact sur notre santé. Un édifice,
ouais, ben,
on est pris pendant 100 ans. La couleur des... Quand on est dans une chambre d'hôpital puis que c'est blanc-vert, c'est pas agréable. Donc, ces gens font la différence en visionnant un meilleur décorum pour...
Mais c'est pas juste le décorum, c'est aussi la possibilité d'évoluer dans les lieux. Bonjour, Benoît Racette, qui est avec vous aussi. Madame, vous êtes de retour?
Oui.
Bon, et donc, ce qu'on vous demandait, c'était quel était le message que vous véhiculiez auprès de vos élèves? Comment vous arrivez à promouvoir justement cet aménagement différent? Est-ce que c'est simple aussi?
Bien, c'est sûr que avec nos étudiants, on essaie de vraiment focusser sur l'usager, donc beaucoup centrer nos interventions, je dirais, sur l'usager, donc ses besoins, ses caractéristiques. Nous, entre autres, pour des personnes qui ont des syndromes ou des maladies, comme vous parlez de cancer tantôt, nous, dans notre recherche, on a essayé d'aborder plus une approche qui est prothétique. Donc, ça veut dire qu'on essaie de se baser plutôt sur les lacunes ou les faiblesses du syndrome ou de la maladie sur l'usager pour créer un aménagement qui va optimiser, dans le fond, ses performances, son bien-être dans cet espace-là. Donc, nous, c'est sûr qu'au niveau académique, c'est des approches comme ça, très sensibles à l'usager. On va focusser, s'orienter là-dessus, en fait, mais c'est sûr que dans la société, je crois que, c'est ça, comme je disais tantôt, beaucoup de gens n'ont pas conscience, en fait, de l'impact qui est beaucoup plus élevé que simplement l'esthétique ou la fonctionnalité d'un aménagement. C'est au-delà de ça, c'est beaucoup centré sur la psychologie, l'aspect social, l'anthropologie de l'usager. Usager dans son environnement.
Vous êtes professeur en design intérieur de l'Université de Montréal. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier?
Le plus fier, ben, c'est sûr, c'est exemple de pouvoir faire des lectures, faire des recherches sur certains sujets qui nous passionnent, être capable de les transmettre également cette passion-là auprès des étudiants pour être sûr que ça perdure, de susciter un intérêt envers cette recherche-là et non simplement juste la pratique. Il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent, exemple au DESS en design d'intérieur, qui ont une conscience, qui veulent développer justement l'aspect de la recherche dans la pratique de l'aménagement. Donc, je pense que c'est ça la plus grande fierté, là, c'est de réussir à amener cette conscientisation-là des étudiants dans leur pratique.
Et ça, c'est heureux. Vous êtes une expertise nécessaire. Vous transmettez cette expertise-là pour que les gens aillent se renseigner sur vos travaux, vos propositions. Est-ce qu'il y a une adresse?
Ben oui, en fait, souvent c'est ben oui et non, dans le sens qu'il faut contacter plus l'Université de Montréal, parce que des fois il y a des recherches qui peuvent avoir certains aspects qui vont être plus privés ou confidentiels par rapport aux clients.
Non, mais on va être cachard, là, on va être sûr que les gens ont le droit d'accéder à vos infos, là, mais l'info publique, j'imagine que vous avez, si on cherche votre nom sur Érudit, par exemple, qui est une belle plateforme là, où on retrouve les recherches intégrales, on retrouve des choses, ou sinon il y a des ressources au portail de l'Université l'Université de Montréal?
Oui, ben en fait, oui, on peut regarder. Il y a également Papyrus à l'Université de Montréal.
Papyrus, oui.
Oui, ça peut être exemple des mémoires, des thèses.
Ouais.
Il y a des recherches, oui, effectivement, auprès de chercheurs qui peuvent être disponibles. Cette recherche-là, elle avait été menée, entre autres, par Virginie Lassalle, qui est professeure en aménagement intérieur. Moi, j'étais son auxiliaire de recherche. Donc, je pourrais
vérifier avec elle. C'est Virginie Lassalle, pardon?
Lassalle, oui.
Lassalle. Alors, on tape tout simplement Virginie Lassalle, le papyrus. On pourrait trouver plein de choses. Pour l'instant, on vous remercie, Mylène Charrette. Rappelons que vous êtes chargée de cours au baccalauréat en design intérieur à l'Université de Montréal. Merci et bon cours!
Merci beaucoup, c'est très gentil à vous.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt, bye-bye.